Bienvenue à l'église au cœur de la ville. Nous vous souhaitons de passer un agréable moment à l'écoute de ce message.
Est-ce que vous êtes surmené? Est-ce que dans vos vies c'est difficile actuellement entre le boulot, les responsabilités familiales, les contraintes de la vie, etc., etc. J'ai la solution pour vous. Ou plutôt, Dieu a la solution pour vous. Au travers de la parole, Dieu a prévu quelque chose pour éviter le surmenage, ça s'appelle le sabbat. On va lire dans le livre de la Genèse, parce que ça commence dès le début, Genèse chapitre 2, verset 2. Lorsque Dieu va créer le ciel et la terre, il est dit que Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Au verset 3, toujours du chapitre 2 du livre de la Genèse, il est dit que Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Pensez-vous que Dieu a vraiment besoin de se reposer? La Bible nous parle de Dieu, il nous dit « il ne sommeille ni ne dort ». Donc il n'a pas besoin de se reposer a priori. Alors pourquoi Dieu a-t-il dû se reposer le septième jour après la création? C'est juste très pédagogique. C'est pour montrer l'exemple, et si lui s'est reposé, à plus forte raison, nous devons le faire. Donc c'est quand même quelque chose de très important, puisqu'on le retrouve dès le début de la Bible, le fait de devoir se reposer. Et Dieu s'est reposé le septième jour, et à quel moment l'homme a-t-il été créé? Le sixième. C'est-à-dire, dès que l'homme a été créé, le premier jour, c'est quoi? Un jour de repos. Généralement, quand vous trouvez un boulot, quand vous trouvez un taf, aucun patron vous dit « Bon, vous pouvez prendre un mois de repos et vous venez le mois prochain, on vous paye vos vacances. » Non, il va vous dire « Vous en avez pour une année et dans une année, alors vous pourrez poser vos congés. » Quand vous serez bien crevé, bien fatigué, alors vous pourrez poser vos congés. Dieu, lui, il a dit « Tu commences par te reposer et après, tu feras les choses. » Dieu sait très bien que le repos est essentiel à nos vies. Ce n'est pas la récompense du travail, le repos, mais le repos, c'est quelque chose de fondamental dans notre vie. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, qu'est-ce qu'on trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, allez les chrétiens? Les 10 commandements. Et dans les 10 commandements, il y a un commandement qui est bien plus expliqué, bien plus détaillé que les 9 autres, c'est celui du sabbat. Et il est en plein centre, c'est le 4e commandement. Et je vous ai déjà expliqué que dans la lecture, dans la manière de présenter les textes dans l'Antiquité, eh bien ce qui est au centre, dans ce qu'on appelle une écriture chiasmique, ce qui est au centre est souvent la clé importante vers lequel on doit diriger nos regards. Évidemment, tous les autres commandements sont importants, mais le 4e est plus détaillé que les autres, et évidemment un commandement très important. Et pourtant, si on pose la question à des chrétiens de longue date et qu'on leur demande « Cite-moi des commandements parmi les 10 commandements », alors tout de suite, tu ne tueras point, tu ne mentiras point, etc. Mais le 4e, il est souvent mis de côté, et pourtant, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Il est hors de question ce matin qu'on fasse une étude talmudique du sabbat. Quand vous regardez le Talmud et quand vous écoutez les rabbins sur qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire le jour du sabbat, vous devenez fou. On n'a pas le droit de faire plus d'un chemin de sabbat, c'est-à-dire à peu près 1 kilomètre à pied. Et il se pose les questions, si on devait couper des troncs et qu'on les mette, est-ce qu'on pourrait continuer à marcher en marchant sur des troncs? Vous voyez à peu près à quoi ça rime la discussion talmudique concernant le sabbat. Pas le droit d'avoir un téléphone portable le jour du sabbat, de téléphoner chez les juifs, très pratiquants. Pas le droit d'allumer un interrupteur, pas le droit d'allumer sa télé. Alors certains essayent de transgresser un peu. Il y avait un juif, il me disait, j'allume mon téléphone portable le jeudi soir, puisque le sabbat c'est le vendredi. J'allume mon téléphone le samedi, pardon, je l'allume le vendredi soir à 18h, au moment du coucher du soleil. Je suis en communication avec ma femme et puis je le garde tout le jour du sabbat ouvert pour pas avoir à allumer mon téléphone. C'est un peu hypocrite, hein. Ils allument toutes les lumières à la maison et ils allument la télévision pour pas avoir à l'allumer le jour du sabbat. Alors qu'en fait, en théorie, le jour du sabbat, un juif doit même pas avoir recours, s'il veut vraiment vivre son sabbat tel que le préconisent les rabbins, il doit même pas avoir recours à tout ce qui est moyen moderne, ordinateur, téléphone, télévision, etc. Aucune utilisation. Donc, il est hors de question de parler de ce genre de choses ce matin, parce qu'à mon sens, le sabbat, c'est au-delà de contraintes religieuses. Qu'est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit? Le sabbat, c'est surtout un conseil de Dieu pour nos vies, quelque chose de fondamental, un besoin auquel Dieu répond. Et il nous faut faire attention à cela, pas au travers d'une liste de choses à faire ou à ne pas faire, mais à comprendre le sens du sabbat pour nos vies. Il y a vraiment quelque chose d'important à saisir, surtout à l'époque où on vit, où il y a tellement de burn-out, où il y a tellement de gens en surmenage, des gens qui n'en peuvent plus. Moi, en tant que pasteur, je vois régulièrement des gens, même moi, ça m'est arrivé de me retrouver en limite du possible dans ma vie, parce que j'additionnais les activités, je me disais, je me reposerai plus tard, quand j'aurai le temps. Le problème, c'est que plus tard, c'est souvent trop tard. Il est dit dans le livre des Hébreux, dans le Nouveau Testament, chapitre 4, verset 9, « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. » Il y a quelque chose qui nous est réservé. Et nous devons comprendre ce qui a été réservé pour nous. Je vais vous poser quelques questions. Je ne vous demande pas de réponse. Je vous demande juste de réfléchir, de répondre dans votre cœur. Je vais les poser tout doucement, elles ne sont pas écrites, mais je vous demande tous de les écouter. Pensez-vous que la pratique du sabbat n'a aucune importance et que s'il est pratiqué, cela conduit souvent à un légalisme de la religiosité, un légalisme pesant, ou que le sabbat est au contraire une discipline de formation spirituelle fondamentale? Quelque chose qu'il faut parvenir à imposer à nos vies. Autre question. Pensez-vous que l'enseignement du Nouveau Testament sur le sabbat est déroutant et que vous ne voyez pas comment il peut être pratiqué dans notre culture moderne ou dans la vie de l'Église? Ou avez-vous réfléchi clairement et pratiquement au respect du sabbat dans votre vie? Autre question. Considérez-vous le sabbat comme étant votre jour de congé ou un temps où vous pouvez faire les courses, prendre le temps avec votre famille ou pratiquer un loisir? Ou est-il pour vous un jour pour le Seigneur auquel vous vous préparez pendant les 6 autres jours de la semaine? Observez-vous le sabbat de manière inconsciente? Quand tout votre travail est terminé et que vous avez travaillé assez dur pour gagner le droit de vous reposer enfin, où est-il pour vous un cadeau de Dieu pour vous réjouir du fait que toute la vie est un miracle? Considérez-vous les vacances, vos vacances, comme des périodes pour oublier votre travail quand vous y arrivez, vous rafraîchir pour mieux y retourner? Ou le sabbat est-il pour vous une parenthèse de 24 heures chaque semaine où vous vous arrêtez de travailler pour vous reposer, vous réjouir et contempler Dieu dans toutes ses œuvres? Prenez-vous un sabbat pour être plus productif les 6 autres jours de la semaine, ou faites-vous votre travail, qu'il soit rémunéré ou non, 6 jours par semaine et le sabbat, vous vous reposez de tout votre travail? Ça va, ça suit? Travaillez-vous le plus possible pendant 6 jours pour vous conformer au commandement du sabbat le 7e, ou abordez-vous vos vacances et vos longues périodes d'absence du travail comme des sabbats plus longs, structurant le temps de manière à révérer le Seigneur notre Dieu et en intégrant les principes d'arrêt, de repos, de plaisir et de contemplation. Je continue, il y a encore trois questions. Le jour de congé ou du sabbat, luttez-vous pour parvenir à lâcher prise et faire confiance à Dieu, ou parvenez-vous à vous abandonner à lui qui est sur le trône et qui s'occupera de tout pendant que vous, vous parviendrez à tout lâcher? Le sabbat est-il un jour où vous rechargerez vos batteries spirituelles pour le reste de votre semaine de travail, ou pratiquez-vous le sabbat pour respecter la manière unique dont Dieu vous a créé en tant qu'être humain, à son image, qui a besoin de repos et pour vous laisser aimer en dehors de votre travail? Je fais beaucoup d'entretiens et je me rends compte que énormément de gens puisent dans leur travail ce que Dieu est censé leur donner. Ils donnent un sens à leur vie au travers de leur travail. Vous leur enlevez le travail, ils sont en totale panique. Quand vous voyez certaines personnes, il y a une émission, c'est The Voice, quand vous écoutez tous ceux qui chantent, notamment les enfants, etc. Pourquoi vous chantez? Ah ben, je veux chanter parce que j'ai perdu quelqu'un qui m'est cher et il serait fier de moi. En fait, ils font tout pour des gens disparus, ils font tout pour des situations pas possibles. À un moment donné, pourquoi je fais les choses? Pourquoi je fais les choses? Pour qui je fais les choses? Et est-ce que c'est ça le sens de la vie? Dernière question, avez-vous des difficultés à connaître vos limites? Et ne savez pas quand vous devez vous arrêter de travailler? Ou connaissez-vous et respectez-vous vos limites? Et cherchez aussi à intégrer les qualités du sabbat aux autres jours de la semaine où vous travaillez. Toute cette liste de questions devrait vous permettre de réaliser quelle part vous accordez au sabbat dans votre vie. Toutes les premières parties des questions, c'est les pires. Les « où », évidemment, vous avez compris que c'est ça le sabbat. C'est là où Dieu vous attend, c'est là où Dieu m'attend, c'est là où nous devons nous rendre une fois par semaine, une journée entière. J'entends à période fixe de l'année des frères et des sœurs me dire « Pasteur, j'ai besoin de prendre de l'air ». J'en peux plus. De voir autre chose, de sortir de ma routine, car je n'en peux plus. Ok, j'entends. Êtes-vous concerné par ce type de besoin périodique et récurrent? Est-ce qu'à période régulière, généralement quand on arrive vers le moment des fêtes de fin d'année et tout, c'est là que ça commence à tirer un peu? La reprise de septembre, là, septembre, octobre, novembre, décembre, et là, le décalage d'horaire, etc. On est un peu comme en hibernation, là, et on a du mal à faire avancer la machine. Alors on tire, on tire, on tire. Et encore, on n'est pas à Paris en train de galérer dans les transports. Qu'est-ce que ce serait, hein? Il y en aurait, c'est rendez-vous, vous êtes cernés, hein? Et on les voit, les cernes, hein? Vous, vous ne les voyez pas, mais moi, d'ici, je les vois. On dirait des chouettes, vous savez? Des pandas, des pandas. Donc, à partir de là, évidemment, ça tire. Et à période fixe, ça revient. C'est dur. Il faut aller puiser dans nos réserves les plus profondes pour arriver à continuer à nous inscrire dans notre quotidien. Et puis, les factures, elles continuent à arriver. Les soucis sont là. Et puis, tout vient s'alourdir. Tout vient s'alourdir. Dans le Nord des États-Unis, je ne sais plus dans quelle province exactement, un groupe d'hommes devait marcher pendant des mois et des mois pour atteindre l'endroit où ils devaient aller. Ils faisaient ça régulièrement. Et alors que le blizzard commençait à arriver, ils avaient peur de ne pas arriver à l'heure, avant que le blizzard arrive, que les froids arrivent. Alors ils se sont dit, il faut à tout prix qu'on ne prenne plus de temps de repos et qu'on marche jour et nuit pour atteindre notre objectif, qu'on ne s'arrête surtout pas. Un groupe de ces hommes a dit non, nous voulons avoir notre jour de repos. Nous sommes des chrétiens, le dimanche, nous ne marcherons pas. Et donc l'autre groupe a dit, si on ne marche pas pendant les 7 jours, c'est foutu, on n'atteindra pas notre objectif. Les deux groupes ont marché, le seul qui est arrivé au bout, c'est celui qui s'était reposé. Les autres se sont épuisés et ils n'ont pas pu atteindre l'objectif. Ceux qui se sont reposés de manière régulière, pendant les plusieurs mois que la marche durait, avaient assez d'énergie et de force pour continuer le voyage et ont pu atteindre finalement l'objectif. Tu n'iras pas plus vite que moi, tu n'arriveras pas au 31 juin avant moi. On y arrivera ensemble. Que tu cours, que tu te mettes la pression ou pas, on y arrivera ensemble. Si on y arrive, à moins que Dieu revienne, ou qu'il vienne nous chercher avant. Mais tu ne pourras pas faire avancer le temps plus vite parce que tu cours au travers de tes journées. En réalité, vous n'avez pas besoin de changer d'air, mais juste besoin de prendre le temps de bien respirer. Il y a aussi beaucoup de problèmes de respiration aujourd'hui. À cause du stress, les gens ne respirent plus. Certaines personnes, quand vous les amenez à prendre des respirations profondes, c'est-à-dire aller jusqu'à remplir les poumons et les vider, et les remplir et les vider, vous savez ce qui se passe? Ils ont la tête qui tourne. Mais attends, c'est normal que tu respires? Comment se fait-il que d'un seul coup, tu vas être étourdi parce que tu te mets enfin à respirer tel que tu devrais respirer? Nos respirations sont raccourcies, haletantes, on s'essouffle, on s'épuise. Tu n'as pas besoin de changer d'air, tu as besoin de prendre le temps. J'ai observé que beaucoup d'entre nous sont désireux de développer une meilleure relation à Dieu. Non ? Amen. Je parle d'une relation de qualité, d'une relation beaucoup plus profonde, au sein de laquelle l'intimité se partage sans retenue ni contrainte extérieure. Je ne parle pas de religiosité ou d'habitudes prises qui ne sont qu'un vernis spirituel visant à soulager nos consciences. Je ne parle pas de ça. Nous avons partagé ensemble dernièrement 5 messages, vous pourrez les écouter sur le site internet si vous voulez, sur l'intimité de Dieu. Et beaucoup m'ont témoigné avoir été remués dans le bon sens au travers de ces messages. Et j'en suis véritablement heureux en tant que pasteur. Mais j'encourage chacun à franchir un cap supplémentaire ou à monter une nouvelle marche dans sa vie avec Dieu. J'exhorte chacun, j'encourage chacun à ne plus se contenter de là où il en est et à suivre Dieu là où il l'attend. Aussi, permettez-moi de continuer à vous conseiller, à vous édifier. Car ce qui altère le plus la qualité de notre relation à Dieu, c'est l'investissement en temps que nous pouvons lui accorder. Toute relation, quand on veut lui donner de la qualité, il faut d'abord lui donner du temps. Oui ou non? Mais oui. Il est impossible de trouver le temps suffisant pour nous arrêter afin d'être davantage avec lui. C'est ce que tout le monde pense généralement. Le problème, c'est qu'au sein de toutes nos activités, on se dit « Impossible, j'ai pas assez de temps. Le temps me manque. Tu veux que je te fasse voir mon agenda ?» Ouais, si tu veux. Oui, oui, je veux bien. Si tu as un problème, je veux bien. On va mettre en place quelque chose pour t'amener à prendre le temps, parce que le temps, tu l'as en réalité. Ne crois pas que tu ne l'as pas, c'est une excuse qui ne peut pas tenir. Notre société s'est tristement construite des valeurs de productivité, de rentabilité, découlant de nos multiples activités, et le slogan commun est « Je fais, donc je suis ». Plus je fais, plus je suis. Moins je fais, moins je suis. Moi, j'aime bien regarder certains pasteurs de notre mouvement quand ils arrivent à la retraite. Alors, vous entendez de tout. C'est marrant. Certains disent, enfin, je vais pouvoir me consacrer à des choses que je n'ai pas eu le temps de faire avant. Il y en a un qui me disait, quand je serai à la retraite, c'est même pas un pasteur de chez nous, c'est un pasteur luthérien avec qui je communique. J'ai des drôles de relations, hein. Et il me dit, quand je serai à la retraite, j'écrirai un livre. Et je lui ai dit, si tu y arrives. Je lui dis, parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, j'ai l'impression qu'elle recule, la retraite. Je ne sais pas si on va arriver à la rattraper un jour, mais... Et donc je lui dis, je prêche demain sur le sabbat. il me dit, moi je prêche, c'est le baptême de Jésus. J'ai fait, ah bon, tu baptises Jésus demain? Ça l'a fait rigoler. Et je lui dis, je prêche sur le sabbat et je t'encourage à pratiquer le sabbat dans ta vie. Et peut-être que les jours de sabbat, ce sera un bon moyen eh bien, de travailler, mais dans le calme du Seigneur et dans le repos du Seigneur à l'écriture d'un livre. Parce que ça peut être vraiment un moyen de vivre un sabbat d'une manière très particulière. On dit toujours, je fais donc je suis. Ainsi, tout est fait pour nous pousser à produire et à consommer, même si pour cela on risque de tous se consumer. Il découle de toutes ces choses que nos vies se retrouvent de plus en plus déshumanisées et traitées comme des moyens de production et de consommation. D'ailleurs, il suffit de voir comment sont traités les improductifs dans notre société industrialisée pour réaliser combien cette dérive productiviste est non seulement grave, mais aussi terriblement destructrice. Nos personnes âgées, dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, ne produisent plus rien. Bon, elles génèrent encore de l'activité auprès des personnels. Mais imaginez qu'elles ne génèrent pas d'activité. Et qu'au fait, elles coûtent plus qu'elles ne rapportent à la société. Qu'est-ce qu'une société productiviste et industrialisée pourrait bien penser de ces aînés qui ne produisent rien et qui coûtent ? Ils ne servent plus à rien. Quand vous avez quelque chose chez vous qui ne sert plus à rien, vous en faites quoi ? Vous le jetez ? Voilà où on en arrive tristement. Voilà où on en arrive tristement. Et rassurez-vous, vous êtes tous pour faire des petits vieux et des petites vieilles un jour ou l'autre. Certains y sont déjà, et d'autres y vont très vite. Moi, ça va assez vite, à mon grand regret, mais on est tous faits pour le faire. Je vois certains pasteurs qui sont en totale panique, parce que comme ils vont perdre leur activité, ils se demandent ce qu'ils vont devenir. Je serai donc plus rien ? Ben si. Tu te définis au travers de ton activité, et si tu perds ton activité, t'es plus rien. Certaines personnes, tombant au chômage, se retrouve totalement en dépression, pas pour la perte de revenus, parce que généralement le chômage vous permet d'avoir quand même quelques revenus. Merci Seigneur pour notre pays qui aide les gens qui sont dans la détresse. Mais sont totalement déprimés parce qu'ils n'ont plus de motivation dans la vie, ils ne savent plus pourquoi ils se lèvent le matin. Tout est déstructuré parce que d'un seul coup le travail n'est plus là. Ça vaut la peine de repenser à la place de notre activité, notre travail dans notre vie en tant que chrétien. Quelle place prend notre travail dans notre vie ? Conscient de l'allure dans laquelle les familles de notre Église vivent actuellement, tellement elles avancent au rythme effréné du monde qui les entoure, quand on veut faire des réunions de leaders, c'est toujours très particulier d'arriver à trouver un moment dans l'agenda de tout le monde qui corresponde pour arriver à tout réunir. Tout avance tellement vite. On avait pensé utile et urgent de mettre en place des temps de ralentissement pour les parents afin qu'ils se retrouvent avec leurs enfants. Parce que moi, je vois les enfants, c'est comme si, en tant que papa, tu marches avec tes grandes enjambées et le petit derrière, il est là. Il n'arrive pas à suivre, quoi. Et vous vous rendez pas compte, les parents, vous vivez dans votre vie, à votre rythme, mais vos enfants, là, ils ont des petites jambes, ils n'arrivent pas à vous suivre. Alors les enfants, on leur donne de la Ritaline, on leur donne tout un tas de produits, ils sont hyperactifs, ils ont des troubles dyslexiques, dyspraxiques et tout. Les enfants, ils sont... Moi, je passais des journées dans les bois, à prendre des branches de noisetier, à me construire des arcs et des flèches. Je jouais à la bouillasse dans la terre. Hein, quand je jouais à la bouillasse, à la gadoue, je prenais de la terre, je mélangeais avec de l'eau, je faisais des gâteaux, des galettes, je les jetais dans la tête à ma sœur. On s'éclatait, quoi. Je vois plus d'enfants dehors. Vous promenez dans les bois, vous voyez plus d'enfants. Ils sont devant la console. Et quand les parents... Dépêche-toi, dépêche-toi, on est en retard, dépêche-toi, dépêche-toi. l'enfant, ce qu'il a besoin, c'est pas d'activité, il a besoin d'être avec ses parents. Alors comme on n'a pas le temps, on lui paye le sport, on lui paye le judo, on lui paye la musique, on lui paye le machin, et on le fait courir et courir et courir, et faut qu'il performe, faut qu'il performe. Performe. Les pauvres. Nous, on en a un peu profité, mais eux en profitent même plus. Nous, à 50 ans, on est sur les rotules, eux le seront à 30. Réagissez pendant qu'il est encore temps, je vous en supplie. Il semble tellement difficile de faire comprendre aux grands qu'il est impératif ou urgent et primordial de donner sens et vie à la relation qui nous unit à nos enfants. Un jour, un pasteur, on se retrouvait pendant un temps de prière et de jeûne à plusieurs pasteurs et un frère, a voulu nous témoigner de quelque chose. Il était retraité, aujourd'hui il est auprès du Seigneur. Et il nous disait, un jour, ma fille qui a, elle avait 25 ans ou 26 ans, lui a dit « Papa, j'aimerais te voir. C'est important pour moi, je veux te voir. » Et il dit à sa fille, bah « Oui, ma fille, il n'y a pas de problème, elle vivait chez elle, elle avait un travail et tout. » Et en fait, cet homme, c'est lui qui avait ouvert les centres Teen Challenge en France. Des centres pour aider des drogués à sortir de la drogue. Et cet homme s'est consacré, a consacré sa vie à aider des drogués à sortir du fléau de la drogue. Et puis sa fille lui dit, papa, je voudrais te parler. Elle lui dit, voilà, je suis consciente du travail que tu as fait auprès de tous ces drogués. C'est un travail formidable. Tu as gagné des âmes au Seigneur. En grand nombre, papa. Mais t'en as perdu une. Son père lui dit, ah bon, ma fille, mais laquelle ? Moi. Tu t'es occupé d'eux, mais de moi, tu t'es pas occupé. Il a fondu en larmes devant sa fille. Il lui a demandé pardon. Sa fille a accepté le pardon de son père. Acceptant le pardon de son père, elle a accepté aussitôt Jésus-Christ dans sa vie. Une semaine après, elle faisait un accident de voiture, elle mourait. Terrible. Terrible, mais sauvé. Il était passé à côté de l'essentiel. Dieu lui a fait la grâce, au dernier moment, de faire ce qui devait être fait. Faites attention. Réfléchissez à vos priorités, au bien le plus précieux que vous avez dans vos vies. Je prie que le premier slow time ait pu donner à beaucoup de parents de comprendre cette nécessité. Parce qu'au deuxième slow time, ils n'avaient plus le temps. Dommage. Il semble qu'aujourd'hui, l'arrêt sur image soit impossible pour certains. Et même s'ils s'accordent ce qu'ils qualifient de temps de relâche, ils y incorporent irrémédiablement toutes sortes d'activités de loisirs, tellement le sentiment d'inactivité angoisse. Certaines personnes, quand ils sont en vacances, ils angoissent. Je ne sais pas quoi faire, je m'ennuie. Pour moi, en vacances, je ne m'ennuie pas. Bon. Le monde vit en mode hyper. Nous sommes en hyperactivité cérébrale, en hypervigilance, en hypervitesse pour tenter de tout accomplir dans une journée non expansive de 24 heures. Nous faisons nos courses dans des hypermarchés en essayant dans la mesure du possible de manger hyper sain, ce qui me semble pas très compatible. Les résultats obtenus à force d'être hyper speedés, c'est que notre société en hyper expansion a créé des enfants hyperactifs, des parents hyper stressés, des quinquas hyper fatigués et des vieillards hyper déconnectés devant toute cette réalité. Bienvenue dans le monde moderne. L'Église cédera-t-elle à cette pression ambiante ou sera-t-elle, au travers de ceux qui la composent, un havre de paix à l'intérieur d'un monde qui a perdu tout contrôle et tout sens ? Ça ne tient qu'à vous de faire la différence. C'est vrai que de tout temps, l'homme a cherché à dépasser ses limites. Dieu a créé le jour et Dieu a créé la nuit. Il a créé la nuit, pourquoi ? Pour se reposer, l'homme a inventé l'ampoule électrique. Fou, on est fou. Comment trouver ses repères ? Comment se sentir sécurisé dans quelque chose qui est illimité, plus de limites ? Les êtres humains sont comme les marchés boursiers, hyper tendus et hyper fluctuants. Tout va hyper trop vite. Court terme, vitesse, frénésie de l'instantané. Jamais cette société en surchauffe, rompant avec la stabilité des précédentes, n'a eu à ce point le nez dans le guidon. Le monde est speed, omnubilé par un présent chronophage. Je vais vous lire « Retrouver l'auteur à succès ». C'est le jeu, ça va ? Je vous lis les paroles. J'ai la tête qui éclate. Je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Stone, le monde est stone. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. Je ne sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers ou si c'est moi qui me fais mon cinéma. J'ai plus envie de me battre, j'ai plus envie de courir comme tous ces automates qui bâtissent des empires que le vent peut détruire comme des châteaux de cartes. Ça vous dit quelque chose ? Luc Plamondon et Michel Berger. Stone, le monde est stone. La question que je pose, c'est est-ce que vous aussi vous êtes stone ? Amen. L'homme du 21e siècle doit-il nécessairement vivre à toute vitesse sans prendre le temps d'apprécier les choses ? Est-il possible de retrouver un rythme humainement supportable et sain, profiter du temps qui passe sans être complètement en marge de la société ? Quoi ? Tu regardes les fleurs et les papillons ? T'as fumé ou quoi ? Ah non. Cette société a-t-elle à ce point besoin de toi pour en arriver à ses fins, ou plutôt à sa fin, ou bien est-ce toi qui as tellement besoin d'elle pour espérer combler le vide qu'elle cause en réalité en toi ? Pose-toi la question. Est-il encore possible de laisser sa montre de côté et d'accepter de mettre les véritables priorités là où elles doivent être ? Gagner du temps, n'est-ce pas commencer par ne plus en perdre ? C'est pourtant prouvé que le stress et la nervosité liés à nos rythmes de vie frénétiques sont mauvais pour notre santé. Alors, faut-il attendre la retraite pour prendre enfin le temps de vivre ? Ou sera-t-il trop tard car nous serons usés physiquement et mentalement pour en profiter ? Aujourd'hui, les Alzheimer arrivent chez des gens de 40 ans. Toi, tu te dis, j'espère qu'à 75-80, je ne ferai pas un Alzheimer. Ouais, ben, tu peux l'avoir 40 ans avant, hein. On tire trop sur la corde. Faut-il attendre d'être en vacances pour prendre du temps de qualité avec ce qu'on aime, Dieu y compris ? Comment aménager au sein du chaos ambiant un espace assez large et assez tranquille dans lequel Dieu sera l'objet de notre méditation et de notre amour confiant ? Comment ne pas prier à la hâte ou sur commande, mais prendre le temps de savourer un moment de communion avec le Dieu vivant dans l'émerveillement et l'adoration ? Juste être là, dans sa présence. Plus à lui faire les petits bons de commande. Vous savez, les prières listes, là. Sinon, tu sais ce que tu fais. Tu t'enregistres. Puis, tu vas te promener, tu mets l'enregistreur, tu dis à Dieu, écoute ce que j'ai à dire. De toute façon, c'est tous les jours pareil, donc ne te gaffe pas. Hein. Écoute ce que j'ai à dire, puis toi, tu vas faire autre chose pendant ce temps-là. Prendre du temps avec Dieu, dialoguer avec lui, être à l'écoute de sa parole. C'est quoi ta volonté, Seigneur, actuellement ? Pour ma vie, pour ceux qui sont autour de moi, pour l'Église, pour le monde dans lequel je vis, pour mes enfants, pour mes parents. C'est quoi ? Qu'est-ce que tu veux pour eux ? Fais-moi voir, Seigneur. Et je prierai en fonction de ta volonté et vous serez quelqu'un qui fait toujours mouche dans la prière parce que vous ne prierez pas pour ce que vous pensez être juste, mais pour ce que Dieu veut. Quelle est la réponse à ce monde qui semble tourner de plus en plus vite comme une toupie qui nous étourdit au risque de nous faire chavirer à tout moment. À travers sa parole, Dieu a pourvu et a prévu une solution à ce problème afin que nous ne demeurions pas esclaves de nos dilemmes, de nos sources d'irritation, du stress et de nos culpabilités. Dieu répond à nos attentes, peut-être même inconscientes, de repos, de paix, de tranquillité, de moments de qualité avec lui et avec ceux qui nous entourent. Et nous n'avons pas à attendre le ciel ou le repos éternel pour vivre les bénédictions que Dieu promet à son peuple. Il faut sortir des fausses vérités qui, lorsque nous ne sommes pas occupés, nous amènent à nous sentir coupables de perdre du temps et de ne pas être productifs. Faut que je fasse quelque chose. Relis l'histoire de Marthe et de Marie. Tu t'agites pour peu de choses. Elle a choisi la bonne part. Elle sait. Arrêtez, elle a tout laissé tomber pour être avec Jésus. Pour nous ralentir et ancrer profondément nos vies en lui, Dieu nous offre une pratique spirituelle puissante qui consiste à observer le sabbat. La solution se résume à un seul mot, et ce mot d'origine hébraïque, shabbat ou sabbat en français, signifie repos ou plus exactement non-utilisation du temps. Moi, j'aime ça. Un jour dans la semaine, tu casses ta montre, tu la ranges, tu ranges le téléphone, tu ranges les pendules, tu n'utilises pas le temps. Tu suspends le temps pendant une journée. Tu n'as plus recours à ta montre, plus recours à aucun moyen de mesurer le temps, si ce n'est la course du soleil dans le ciel. C'est tout. Et pas pour te dire quelle heure il pourrait bien être là, juste pour dire, waouh, c'est tellement beau, Seigneur. Waouh. Une méconnaissance largement répandue du sabbat le réduit à un simple jour de congé, le samedi pour les juifs, le dimanche pour les chrétiens. Mais le sabbat est bien plus qu'un jour de repos séculier. La première fois que nous percevons ce concept dans la Bible, c'est dans le livre de la Genèse au chapitre 2 et au verset 3. Vous savez que dans le livre de la Genèse, pratiquement, vous allez retrouver toutes les valeurs de la Bible. L'alliance, la nouvelle alliance est dedans. Tout ce qu'un chrétien doit vivre, il va le retrouver. C'est la base, la Genèse pose toutes les bases. Et là, dans Genèse 2, 3, on voit que Dieu s'est reposé de l'œuvre qu'il a, de toute l'œuvre qu'il a créée. En réalité, Dieu n'a pas besoin de se reposer, il ne prend jamais du repos, il voulait absolument que sa création entre cependant dans le repos. Et à travers le sabbat, Dieu nous fait comprendre comment se déroulent réellement les jours. Car notre définition du mot jour diffère tellement de celle de Dieu qu'il n'est pas étonnant que nous ayons dérivé et perdu le repos et la paix que Dieu nous avait préparé. Avez-vous déjà fait attention à l'expression biblique « il y eut un soir et il y eut un matin » que nous rencontrons 5 fois dans le livre de la Genèse. En fait, cette expression révèle une notion de rythme. Et le soir marque quoi ? Le début ou la fin du jour ? Le début du jour. Ah ? Le début d'une journée, les Juifs commencent le Shabbat le vendredi soir après le coucher du soleil. Le jour du Shabbat commence le vendredi soir. Vous auriez dit le jour du Shabbat commence le samedi matin. Ben non, il commence le vendredi soir et va jusqu'au samedi soir au moment où le soleil se couche. Et l'expression révèle une notion de rythme. Le soir marque le début de ce jour. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais ? Tu commences par faire quoi ? Par te reposer. C'est à ce moment que Dieu arrive et appelle la lumière, les étoiles, la terre, la végétation, les animaux et l'être humain à l'existence. Alors que le soir correspond au moment où nous allons nous coucher, Dieu commence son œuvre. Tiens, Dieu commence son œuvre quand nous, on va se coucher. C'est ce qu'il est en train de dire là. Toi, pendant que tu dors, Dieu travaille. Il travaille en toi, il travaille autour de toi. D'ailleurs, il travaille tout le temps. Mais de se dire, c'est pas parce que je dors que tout s'arrête. Dieu œuvre. Tu peux dormir en paix, Dieu contrôle. Quand j'étais enfant, j'arrivais à dormir sur le siège arrière de la voiture de mon père. aujourd'hui, en voiture avec des pasteurs quoi, j'arrive pas à dormir, j'ai pas confiance. Je freine à sa place, j'accélère. L'autre jour, j'étais avec Daniel, il me fait « Mais laisse-moi conduire !» T'as pas confiance ? Mais non, j'ai pas confiance. Avant, j'arrivais à dormir derrière. J'avais confiance en mon père. Est-ce que t'as confiance en ton père ? Ton père dans le ciel. Tu dois pouvoir prendre du repos sans t'agiter. T'inquiète, il contrôle. Il fait les choses. Il te mettra pas dans les décors. Alors le soir correspond au moment où nous allons nous coucher et Dieu commence son œuvre. C'est cela le rythme hébraïque, soir et matin, qui nous prépare au rythme de la grâce. Pendant que l'homme dort, Dieu conçoit son alliance. À notre réveil, nous sommes invités à participer à son œuvre. Et nous y répondons par la foi et par notre travail. La grâce est toujours la première. Tout commence par la grâce. Tout naît que grâce. Nous nous réveillons dans un monde que nous n'avons pas fait, dans un salut que nous n'avons pas gagné. Le soir, sans notre aide, Dieu commence son jour de création et le matin, il nous appelle à jouir de l'œuvre qu'il a commencée, à la partager et à la poursuivre. La création et l'alliance sont une œuvre de grâce, présente pour nous accueillir chaque matin. George MacDonald a dit « Le sommeil est une invention de Dieu pour nous donner l'aide qu'il ne pouvait pas nous accorder quand nous sommes éveillés. » J'aime bien. Quand on est éveillé, on est tellement cloisonné dans ce qu'on a à faire, etc., que Dieu n'arrive pas à nous attraper pour nous faire comprendre ce qu'on doit comprendre. Alors il dit « Je vais les endormir et puis là, pendant qu'ils dormiront, j'aurai la possibilité de faire des choses. Ils sondent nos cœurs, ils sondent nos reins pendant que nous dormons. Ils voient quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses. » Parce que dans la journée, on n'a pas le temps de le consulter, de lui partager les choses. Dieu a été obligé de nous endormir tous les soirs. Quand nous lisons et relisons les premières pages de la Genèse et certains psaumes, nous découvrons ces rythmes profonds de la nature, qui nous rappelle la réalité dans laquelle la force ou la forte impulsion initiale est la parole créatrice et rédemptrice de Dieu, sa providence, sa présence providentielle et sa grâce. Redécouvrir la paix et le repos de Dieu ne peut donc pas se faire sans se plonger dans la présence de Dieu, sans avoir part à sa grâce, sans méditer sa parole, sans regarder la nature à travers ses yeux. Tandis que le rythme biblique de la Genèse s'imprime en nous, nous faisons une autre découverte qui devrait nous apaiser. Au moment où nous cessons nos activités quotidiennes et allons nous coucher, rien d'essentiel en réalité ne s'arrête. Miracle, tu continues à respirer même quand tu dors. Bon, ma femme, elle a un peu de mal, elle est équipée. C'est vous dire si elle a dû tirer pendant des années. Ah, elle me supporte, alors imaginez. Nous devons cesser nos activités physiques et cérébrales. Non avec la frustration de l'inachevé et l'appréhension du lendemain, mais dans l'expectative d'un nouveau jour de grâce où tout est sous contrôle divin. Demain sera un autre jour et les bénédictions de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Je m'endors aujourd'hui, mais un nouveau jour de grâce va s'éveiller à moi. Pendant que nous dormons, il se produit des merveilles que nous n'aurions pas pu inventer. La lune marque les saisons, les vers aèrent la terre, les oiseaux nocturnes se délectent d'insectes, les étoiles poursuivent leur course, les protéines réparent nos muscles, notre cerveau retrouve la sérénité et équilibre le flot d'informations qu'il a reçues dans la journée. Beaucoup de choses se font pendant que vous dormez. Ça va, ça vous angoisse pas qu'il y a plein de choses qui se font pendant que vous dormez et que vous ne contrôlez pas? Nos œuvres s'inscrivent dans le cadre de l'œuvre d'un Dieu souverain et doivent s'inscrire dans les rythmes de sa grâce et de sa bénédiction. Si nous voulons sortir indemnes du chaos ambiant et de la vitesse à laquelle notre monde tourne en rond, nous devons nous soumettre au rythme de Dieu. En réalité, le sabbat n'est pas une interruption de nos activités, c'est une mesure rythmique indispensable comme une pause essentielle sur la portée musicale de nos vies. Imaginez-vous que le compositeur, vous devez jouer de la trompette, mais met aucune pause. Avant la fin du morceau, vous êtes mort, essoufflé. Le problème, c'est que ça risque d'être pareil dans votre vie, pourtant Dieu a mis des pauses régulières, tous les 7 jours, pause. Si toi, tu ne respectes pas ça, tu vas mourir étouffé avant la fin de ta partition. Ce n'est pas Dieu qui l'aura voulu, c'est toi qui auras transgressé les pauses. Et ta vie va perdre en harmonie parce que le morceau sans les pauses n'a plus aucun sens. Que serait un morceau de musique sans aucune pause ? Charles Spurgeon a écrit « Même l'océan se repose entre les marées. La terre se repose pendant les mois d'hiver. Et l'homme doit se reposer ou s'écrouler. Éteindre sa lampe ou se laisser consumer. Nous accomplissons parfois davantage en nous reposant, dit-il. Le sabbat n'est pas une pause vide de sens. En réalité, le sabbat n'est ni un jour de congé quelconque, ni une pause vide de sens et d'activité, mais c'est un appel à l'adoration, à la contemplation et au partage de la rédemption, du rachat de nos âmes. Si Dieu s'est reposé le 7e jour, c'est parce qu'il voulait nous octroyer ce repos indispensable à notre équilibre psychologique, mental, spirituel. C'est parce qu'il savait que certaines choses ne peuvent s'accomplir que dans le calme et le repos, que notre être profond ne mûrit ni ne s'épanouit, pas seulement dans l'action. Le livre du Deutéronome nous montre que les Hébreux ont vécu en Égypte pendant 400 ans. Pendant 400 ans, ils n'avaient pas eu un seul jour de repos. Pas un jour de repos. Ils n'étaient plus considérés comme des humains, mais comme des esclaves. Ils n'étaient plus que des mains, des automates de production, des machines à fabriquer des briques et à construire des pyramides. Pour qu'aucun d'entre nous n'agisse ainsi à l'égard de son prochain, Dieu nous ordonne d'observer le sabbat. Exode 20:8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, c'est-à-dire le mettre à part. C'est une priorité. C'est précieux. Ça doit être dans ta vie incontournable, non négociable. Les 10 commandements ne sont pas obsolètes, mais grâce à Christ, nous avons la possibilité et la capacité de leur obéir, car il les a inscrits dans nos cœurs quand il nous a régénérés. Et ce commandement nous incite à sanctifier le sabbat, n'est pas moins important qu'un des autres commandements tels que de ne pas tuer ou de ne pas voler son prochain. Toi, tu sais qu'il ne faut pas tuer, mais sanctifier le sabbat, tu le sais vraiment ? C'est aussi important pour Dieu. C'est pas moins. Alors pourquoi on n'y prend pas garde ? À partir du moment où nous considérons notre prochain sous l'angle de ce qu'il peut faire, plutôt que sous l'angle de ce qu'il est, nous ne respectons pas son humanité et nous péchons contre Dieu et contre lui. Eugène Peterson a dit : notre vie est tellement liée à celle de nos semblables que nous impliquons automatiquement les autres dans notre travail. Que nous le voulions ou non. Aussi, le respect du sabbat est une mesure de courtoisie et de bonté élémentaire. Il ajoute, ce commandement nous est prescrit pour préserver l'image de Dieu dans notre prochain. De manière à ce que nous le considérions pour ce qu'il est, et non en fonction de nos besoins ou de nos désirs. Un pasteur rendait témoignage et il disait « Depuis que je suis tout jeune, mes parents nous ont appris le sabbat. Et le dimanche, on avait l'interdiction de faire quoi que ce soit. On allait à l'église le dimanche matin. On y retournait le dimanche soir pour les formations de disciples. Il dit « Mes parents tenaient absolument à ce qu'on se repose pendant cette journée et qu'on profite les uns des autres. » Et il nous amenait à contempler la gloire de Dieu au travers de tout ce qu'il nous avait permis d'avoir, et nos amis, et nos biens, et la nature qui nous entoure. Il dit, une seule personne transgressait le sabbat ce jour-là. Vous savez c'est qui ? Ma mère, qui faisait toujours des super repas gargantuesques le jour du sabbat. Eh oui, pensez aux mères, parce qu'elles, même le jour du sabbat, faut qu'elle fasse à manger. Peut-être ce serait bien de le faire le samedi après-midi pour que toi aussi, ma sœur, tu puisses le jour du sabbat profiter du repos de Dieu. Si au lieu d'œuvrer dans un monde dans lequel Dieu appelle toute chose à l'existence par sa parole et sauve son peuple à bras étendus et à main forte, nous concevons un monde dans lequel nous faisons ce qui nous est, ce qui nous semble bon et prions Dieu de bénir nos œuvres, c'est que nous avons renversé l'ordre établi et que nous faisons de l'anthropocentrisme. Mais comment observer le sabbat alors que nous croyons que racheter le temps, c'est accomplir tout ce que notre main trouve de bon à faire? Comment prendre du repos alors que la parole nous dit d'être zélés? Racheter le temps, c'est pas courir à l'aventure. Ce n'est pas frapper l'air, mais saisir les opportunités que Dieu nous donne. Et même si Dieu réclame notre zèle dans sa sagesse, il nous a aussi ordonné, et pas seulement suggéré, de respecter le sabbat. Le sabbat est un temps de pause pour nous éloigner de la frénésie de nos activités et prendre du recul pour découvrir ce que Dieu a fait et continue de faire. Je discutais avec un pasteur qui s'occupe d'aider des pasteurs qui arrivent dans des situations de burn-out. Et il disait, tu sais Xavier, quand tu prends des vacances, si tu ne prends pas au moins 10 jours, tu n'arrives pas à te renouveler. On arrive à un tel degré d'épuisement que si on n'a pas au moins un temps de vacances de 10 jours pour arriver à poser, vraiment être déconnecté, il faut être déconnecté. Hein. C'est-à-dire plus de téléphone, plus d'internet, plus rien. Déconnecté total. Il te faudra au moins 10 jours avant de commencer à en prendre les bénéfices. Tellement il y a de l'épuisement. Mais si tu continues à tirer, la corde va casser. Et tu pourras mettre 1 an, 2 ans avant de retrouver tes forces. Ça s'appelle le burn-out. Et le burn-out, ce n'est pas des gens feignants qui les font, c'est les gens hyper investis dans leur travail. Et qui y mettent plus que ce qu'ils doivent faire, ils y mettent tout leur affect, toute leur trip, tout est mis à l'intérieur. Écoutez bien. Eugène Peterson a dit « La sueur morale qui coule de nos fronts nous aveugle et nous empêche de voir l'action première de Dieu en nous et autour de nous. » Pour lui, respecter le sabbat, c'est faire silence intérieurement pour entendre la voix de notre Dieu. C'est chasser les distractions vaines. Pas d'activité, pas de karting, pas de... Je sais pas quoi, là, ce que tu fais là, pendant tes jours de repos. Là. C'est un jour de repos, fais rien. Coule. Laisse couler. C'est faire silence intérieurement pour entendre la voix de notre Dieu. Il y en a certains, 10 minutes de silence, pour eux, c'est impossible. Quoi. Tu me saoules. Tais-toi! Tu peux pas m'arrêter! Oh, silence. Essaye de faire, de t'imposer 1 heure de silence. Puis quand tu arrives à faire une, essaye d'en faire 2. Puis si tu arrives à en faire 2, essaye d'en mettre 1/3. Et tu vas voir qu'il y a plein de choses qui en toi vont se calmer. C'est faire silence intérieurement pour entendre la voix de notre Dieu. C'est chasser les distractions vaines pour discerner la présence de Christ là où nous sommes et dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Respecter le sabbat, c'est lâcher prise et laisser Dieu œuvrer dans le cœur de nos bien-aimés sans que nous tournions sans cesse autour d'eux et que nous les harcelions de conseils qu'ils n'ont même pas demandé. Hein, les mamans ? Le jour du sabbat, laisse-les tranquilles, tes mioches. Ils ont besoin que tu les laisses se reposer. Vous m'avez entendu ? Amen. Respecter le sabbat, c'est prendre nos distances avec ceux qui s'accrochent à nous et les remettre entre les mains de Dieu qui prend soin d'eux. Débrouille-toi ! Hakuna Matata, c'est le sabbat. Ça devrait être votre slogan. Hakuna Matata, aujourd'hui, c'est le sabbat. Fais ta vie. Laisse-moi tranquille. Dieu s'occupe de toi comme il s'occupe de moi. Respecter le sabbat, c'est aussi sortir de nos routines dans lesquelles nous sommes parfois englués. C'est éviter d'aller ramasser des coloquins sauvages pour les rajouter à l'œuvre de Dieu. Si des fois on pouvait améliorer l'œuvre de Dieu. Alors je termine. Question. Que devons-nous faire pendant le sabbat ? Dans 3 minutes, il est midi, je quitte l'église, vite, vite, vite. Ils sont même pressés le jour du sabbat, les chrétiens. Psaume 92, versets 1 et 2, j'arrive à la fin. Cantique pour le jour du sabbat. Tiens, il y avait un cantique à chanter le jour du sabbat. Tu le chantes, toi, ce cantique ? Le jour du sabbat ? Il est bon de louer l'Éternel, c'est-à-dire de le célébrer et de lui être reconnaissant. Et de célébrer ton nom au Très-Haut, c'est-à-dire chanter sa renommée et sa gloire en s'accompagnant d'instruments de musique. Le psaume 92 associe la louange, l'action de grâce, le chant et la musique au sabbat. La musique fait vibrer les cordes profondes en nous. La mélodie et l'harmonie nous éloignent de nos préoccupations, de nos gémissements et des bruits discordants du monde. Elle adoucit les morses, non ? La musique et les chants spirituels contribuent à alléger nos fardeaux, à nous motiver, à disposer nos cœurs à la présence de Dieu et à sa voix. Ils nous détournent de nos préoccupations et nous rapprochent de Dieu. Dans le psaume 92, verset 11, l'auteur exprime dans son cantique « Pour le jour du sabbat, que le Seigneur lui donne la force du buffle et qu'il loin d'huile sa tête d'une huile fraîche. » Le sabbat est un temps mis à part et consacré à Dieu, un temps de renouvellement de nos forces physiques, morales et spirituelles, un moment pendant lequel on reprend des forces dans la présence de Dieu et où on profite de la joie et du rafraîchissement du Saint-Esprit. Il y a quelque temps en arrière, vous avez vu, je suis passé par la maladie, j'ai été épuisé. Je vais vous dire ce qui se passait parce que vous ne l'avez pas vu. J'arrivais là et je voulais demander à un frère de prier. Je le regardais et j'étais dans ma tête, je disais, comment il s'appelle déjà ? Je ne sais plus comment il s'appelle. Non mais ça fait 10 ans qu'il est dans l'église. Hein. C'est pas quelqu'un qui vient d'arriver le mois dernier. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je disais au revoir à des sœurs à la sortie. J'aurais pu dire au revoir Jacqueline, au revoir Louisa. Je disais au revoir. Je reconnais son visage, mais je ne sais plus comment elle s'appelle. Ça vous arrive ça, là, vous ? Eh ben c'est pas normal ! T'as trop tiré, j'ai trop tiré. Alors, ma femme a reçu une révélation. Elle est venue me voir. Il faut que tu te mettes dans ton fauteuil. Dans mon fauteuil. Et que tu te mettes là et que tu donnes un temps pour Dieu et que tu dises, ce temps est pour toi. Ce temps est pour moi. Oui, accorde-toi du temps à toi. T'accordes beaucoup de temps aux autres, mais à toi, tu t'en accordes pas. Ça pique un peu. Elle voyait dans une vision le Seigneur venir vers moi et m'entourer de bandes qu'il avait trempées dans de l'huile. Si tu prends le temps de t'asseoir, de penser à Dieu et à toi, Dieu va venir te restaurer quand tu ne feras plus rien. Arrête-toi pour laisser Dieu faire en toi ce qu'il a à faire. Allô, docteur ? Oui, je suis malade. Oui, et alors ? Bah soignez-moi. Bah venez à mon cabinet. Ah non, j'ai pas le temps. Soignez-moi pendant que je suis en train de faire mes activités. Ah ben non, mais moi je peux pas faire ça. Vous devez venir à mon cabinet, prendre un rendez-vous, vous donner un laps de temps pendant lequel je vais m'occuper de vous. Vous avez compris que le docteur, il faut qu'on aille le voir. Le Seigneur, il faut que tu ailles le voir. Que tu passes du temps avec lui. Que ça se fera pas dans le courant de ta journée. Ah mais je prie hein, dans la voiture, je fais Alléluia, Seigneur, garde-moi sur la route. Et avant de manger, je dis Seigneur, bénis ce repas. Et avant de dormir, je fais que je fasse pas de mauvais rêves. Et quand je me lève, je dis pourvu que je m'éclate pas le doigt de pied contre le pied du lit. Je prie toute la journée, frère. Hein. Et je te parle pas de ça, moi. Je te parle pas de ça, moi. Je te parle d'une relation avec Dieu. De passer ta journée avec lui, de le rejoindre dans des moments particuliers, de lui donner une journée dans ta semaine. Parce que c'est pour toi aussi que tu le fais. C'est une relation. Le sabbat est un temps mis à part et consacré à un Dieu. À Dieu. Un temps de renouvellement de nos forces physiques, morales et spirituelles. Un jour de rafraîchissement. Le sabbat nous communique la vitalité et lutte contre toutes sortes de fatigues. Il nous pousse, nous tire, nous oriente dans la volonté de Dieu, nous stimule vers la plénitude en rétablissant l'harmonie entre notre corps et notre esprit et aussi entre nous tous, frères et sœurs. Au fur et à mesure que notre civilisation progresse, elle dévalorise la beauté de l'humanité et s'embourbe toujours plus dans le péché et l'iniquité. Nous avons beau afficher une technologie de plus en plus performante, notre humanité est largement tombée en dessous du seuil de ce qu'elle devrait être. Ne sanctifiant plus le sabbat, négligeant Dieu, manquant de reconnaissance, de louange et de chant à sa gloire, l'humanité s'est considérablement appauvrie. Bizarrement, dans ces temps de stress, vous savez ce qui marche à fond ? Les chorales. Pourquoi ? Parce que les gens ont besoin de chanter. Ça leur fait du bien. Ma fille m'explique que dans ses cours de chant, elle apprend aux gens à lâcher. Et d'un seul coup, les gens se mettent à pleurer, quoi. Comme s'ils étaient bloqués. D'un seul coup, dès qu'ils lâchent, tout sort. Juste apprendre à lâcher. Les gens ne savent plus lâcher. Et pourtant, le sabbat n'est pas quelque chose d'extraordinaire en soi. Il ne nécessite pas une illumination soudaine, comme Paul l'a eu sur le chemin de Damas. Ni une vision comme Jean l'a eu sur l'île de Patmos, il réclame tout simplement une journée de mise à part pour Dieu. Une journée consacrée à Dieu, non à la télé, aux jeux en ligne, aux loisirs ou au sport. Une journée de contemplation dans la nature, de louange, d'adoration avec nos familles, avec nos frères et sœurs, d'action de grâce, de méditation de la parole de Dieu et d'écoute de musique spirituelle. Voilà, c'est pas compliqué. Une journée où nous n'avons pas besoin de faire quelque chose. Mais nous regardons ce que Dieu a fait. Où nous cessons nos activités pour contempler les siennes. Où nous faisons taire les bruits du monde pour l'écouter lui. Dieu sait que c'est une nécessité vitale pour nous. C'est pourquoi il nous a accordé le sabbat, une occasion simple de nous réjouir en lui. Et le sabbat est un jour de réjouissance. Oh, mais quelle joie, quel bonheur. Le respect du sabbat nous fait découvrir le bon rythme de la vie. Grâce auquel, sans que nous l'ayons vraiment cherché, nous trouvons le temps de prier et d'adorer celui qui nous a créés et sauvés. Le sabbat, c'est sabbatique. Car ce n'est ni une contrainte, ni une période à appréhender avec angoisse. Aussi, je vous encourage à pratiquer un véritable sabbat, non à la manière des religieux, mais à la manière et en fonction du pourquoi Dieu le recommande. Il n'est pas chrétien pentecôtiste, il n'est même pas protestant, il est catholique, mais Thomas Merton a dit quelque chose d'intéressant. Il existe une forme subtile de violence contemporaine. L'activisme et le surmenage. La précipitation et la tension de la vie moderne sont la forme, peut-être la plus commune, de sa violence intérieure. Se laisser emporter par une multitude d'intérêts contradictoires, se laisser submerger par trop d'exigences, s'adonner à trop de projets, vouloir aider tout le monde pour tout, c'est se laisser vaincre par la violence. La frénésie de l'activisme détruit la racine de sagesse intérieure qui rend les efforts inefficaces. Écoute bien, t'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Tu entends ? Tu es sa créature, mais tu n'es pas Dieu, ni dans ta propre vie, et encore moins dans la vie des autres. Aussi, pour terminer, je vous laisse méditer sur ce dernier verset des Écritures, et pourquoi pas ceux qui savent le faire, en faire une visite de la maison lors d'un prochain temps de sabbat. Regardez comme il est beau. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous quoi ? Le pain de douleur. Le pain de douleur. Qu'est-ce que dit le psalmiste au psaume 127,2 ? Comment il conclut ? Il en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Dieu prépare toutes choses alors que nous ne faisons rien. Ça ne veut pas dire réellement dormir et ne plus rien faire. Pendant qu'ils se mettent dans une phase de calme, Dieu est en train de préparer en eux et autour d'eux le meilleur moyen d'aller, de s'investir dans leurs activités après et pour être pleinement efficace sans avoir à se fatiguer. Si tu savais sanctifier le sabbat, ta vie deviendrait tellement plus légère. Seigneur, bénis mes frères, mes sœurs, mes amis, tous ceux qui sont venus ce matin, ceux qui écoutent aussi peut-être ce message sur Internet. Je te demande d'étendre tes mains sur un monde qui est tellement agité. Nous voyons que les enfants dans ce monde sont tellement agités qu'aujourd'hui même les maîtres d'école n'arrivent plus à faire face à leur classe. Ils ont besoin d'AVS pour être à côté de nos enfants qui n'arrivent même plus à se contenir. Seigneur, fais quelque chose, nous t'en supplions. Que l'Église de Jésus-Christ ne puisse pas se laisser entraîner, Seigneur, dans toutes ces choses, mais que nous puissions, Seigneur, suivre ton conseil, de pouvoir freiner le rythme au moins une journée la semaine, de te considérer pendant ce jour, de considérer ton œuvre, de donner de la qualité à notre relation à toi et à notre relation avec ceux qui nous entourent, d'ouvrir nos yeux sur les réalités de la création que tu as mis autour de nous et de te contempler, Seigneur. S'il te plaît, freine les vies. Donne-nous à faire des choix importants dans nos activités et d'en abandonner certaines qui ne sont pas non seulement inutiles, mais pire, elles nous épuisent. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous à ne pas succomber aux appels de cette société qui dit toujours « fais, fais, fais si tu veux être ». Nous ne sommes pas là pour performer, Seigneur. Nous sommes là pour vivre, seulement vivre. Tu ne voulais pas que nous soyons comme ça. Pardonne-nous, Seigneur. Parce que si tu nous as libérés, ce n'est pas pour retourner en Égypte fabriquer des briques. Pardonne-nous, Seigneur, d'être retournés dans le pays de l'esclavage et de voir notre vie comme la vie d'un esclave, alors que tu as fait de nous tes enfants. Restaure en nous, Seigneur, ce qui doit l'être. Accorde des temps de repos, de ressourcement et de renouvellement à tous ceux qui sont là dans le stress, tous ceux qui sont là presque en limite du burn-out, tous ceux qui sont borderline, tous ceux qui sont prêts à basculer, tous ceux qui sont épuisés par leur quotidien, par leurs responsabilités familiales, professionnelles, sentimentales, tous ceux qui sont sous des jougs et des fardeaux qui ne sont pas le tien, amène chacun à déposer ce matin. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, dit Jésus, et je vous donnerai du repos. Et lorsque tu auras du repos, alors prends mon joug sur toi. Mon joug est doux, dit Jésus, et mon fardeau est léger. Accepte que le Seigneur se charge de tout ce que tu portes, et tu pourras porter tout ce dont il voudrait que tu puisses te charger. Mais ce que Christ met sur tes épaules n'est pas quelque chose qui est fait pour t'écraser. Son joug est léger, son joug est léger, son fardeau est doux. Et si le sabbat ressemble pour toi à un joug et un fardeau à porter dans ta vie, mais vas-y, porte-le et regarde la différence avec ce que tu portes tous les jours de ta vie. Regarde ce que Dieu va faire avec toi, et en toi, et autour de toi. Quand tu auras retrouvé de la stabilité dans ta vie, du calme, ta confiance en Dieu va se restaurer, ta foi va décupler, les situations alambiquées, bloquées dans ta vie vont se débloquer. Les questionnements de tes enfants n'auront pas la réponse « j'ai pas le temps », demande à ton père ou demande à ta mère. J'ai pas le temps. Les enfants vont sentir de nouveau le calme revenir dans leur vie. Il y a des changements à faire et ils sont urgents. Des priorités à poser et c'est urgent. C'est soit Dieu, soit le psychiatre avec ses petits médicaments. Choisis vers qui tu vas aller. Je dis pas que on n'a pas besoin de psychiatre. Mais si on en a besoin, c'est souvent parce qu'on n'a pas écouté ce que Dieu nous avait dit. Et on n'a pas traité ce que Dieu voulait qu'on traite. Prends soin de toi en prenant le temps de rejoindre Dieu dans les sabbats de chaque semaine. Il t'y attend pour renouveler ta vie, pour la restaurer et pour te permettre de continuer cette vie en contemplant sa gloire. Bénis chaque frère, chaque sœur et chaque ami ce matin, et que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Dieu vous bénisse, un bon dimanche à toutes et à tous.